Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromi της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Entre Paris et Berlin, il y a des petits signes qui ne trompent pas, comme la complicité qu'Angela Merkel a tout de suite manifestée à Emmanuel Macron lors de leur première rencontre dans la capitale allemande. Un autre geste qui n'a échappé à personne, c'est lorsque le président français, à son arrivée au sommet de l'OTAN, s'est détourné de Donald Trump pour aller embrasser la chancelière allemande. Au-delà de la forme, il y a aussi la situation, l'état fébrile de l'Europe, dont ils sont tous deux conscients, et la nécessité de redonner aux citoyens confiance dans la construction européenne. Et puis, il y a enfin un contexte géopolitique nouveau, la Russie de Vladimir Poutine toujours menaçante, à un moment où l'Amérique de Donald Trump se replie sur elle-même, sans oublier bien sûr les conséquences du Brexit. Entre Paris et Berlin, tous les clignotants sont au vert. Alors allons-nous assister à un printemps franco-allemand? Que faudrait-il pour que les relations repartent d'un bon pas et quelle forme pourrait-elle prendre? Voilà quelques questions auxquelles nos invités vont tenter de répondre. Je vous les présente. Bonjour Hélène Millard de la Croix.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire à l'université Paris-Sorbonne et bien évidemment une grande, peut-être même la grande spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Marc-Olivier Padis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des études à la Fondation Terra Nova. Terra Nova en quelques mots?
C'est un think tank qui fait des propositions de réflexion sur les politiques publiques en France et en Europe.
Plutôt progressiste, comme on dit aujourd'hui.
On dit progressiste.
On n'est plus à gauche, à droite, on est progressiste, voilà. Plus conservateur, c'est
nous,
ça.
On utilise le terme depuis 10 ans.
Donc, en avance.
Oui, oui.
Sur l'air du temps. Stéphane Zellendorf, bonjour, guten Tag.
Bonjour, schönen guten Tag.
Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Merci d'être en ligne de Strasbourg dans un studio de France Bleu Alsace. Alors évidemment, il y a les signes qui sont la partie visible de l'iceberg et les signes sont chaleureux entre la chancelière d'habitude tout en retenue et le président français naturellement tactile. On s'embrasse, on se serre dans les bras, on multiplie les gestes. Hélène Millard de la Croix, je m'adresse à l'historienne. Est-ce nouveau ce débordement et est-ce qu'il est significatif de quelque chose?
Il est au moins significatif de la façon dont Mme Merkel a évolué depuis une dizaine d'années, parce qu'au début, elle avait d'elle-même assez peu de prédisposition à ses contacts personnels. Elle les avait même un peu subis à l'époque de Nicolas Sarkozy. Je crois que elle s'est détendue, généralement. On l'a vu aussi avec Barack Obama avoir des gestes de proximité, on pourrait dire, si ce n'est d'intimité. Et là, je pense qu'avec Emmanuel Macron, on reviendra bien évidemment sur le contexte international et sur la situation géopolitique, mais c'est un vrai soulagement qu'elle exprime aussi dans sa proximité avec lui. On a beaucoup craint en Allemagne. On a mal compris ce qui se passait en France. On a vu s'écrouler des partenaires a priori privilégiés. Au début, elle avait misé sur l'élection de François Fillon. Et puis après, dans ce face-à-face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le nouveau venu est apparu un peu comme le sauveur. Et parce qu'il a aussi des projets qui sont particulièrement bien vus en Allemagne. Donc, je pense qu'elle s'est en effet détendue et qu'elle se dit que c'est bien là quelqu'un avec qui il va falloir travailler sans y être trop contrainte.
Stéphane Zellendorf, alors tout comme Hélène Millard de la Croix, j'ai été surpris par la chaleur que mettait Angela Merkel dans la partie visible des rencontres qu'elle a eues avec Emmanuel Macron. Alors, même question, faut-il y voir quelque chose?
Hélène a tout à fait raison de dire que les symboles, ça compte. Et Angela Merkel, avec sa longue expérience, c'est quand même maintenant une des leaders en Europe, au moins, qui est là depuis le plus longtemps. Elle sait, entre-temps, pertinemment, comment ces symboles, ils sont importants pour mettre de la relation entre le président, entre la chancelière, mais aussi pour montrer ça au public, aux médias. Et elle joue parfaitement ses jeux. Je crois qu'elle est vraiment aussi soulagée. Elle a compris qu'avec Macron, elle aura un partenaire qui correspond tout à fait à ses attentes, à sa compréhension du monde, ce qui était évidemment pas le cas, ce qui n'aurait pas été le cas avec Marine Le Pen, et peut-être aussi François Fillon avec ses accents gaullistes. Ça aurait été plus difficile pour Angela Merkel à comprendre.
Marc-Olivier Padis, sur la forme, un petit mot à rajouter?
Oui, on a vu de très belles images lors du premier déplacement du président Macron à Berlin. Il est apparu incroyablement à l'aise, comme s'il avait fait cet exercice toute sa vie. Il faut dire aussi que l'équipe de la chancellerie a dit, mais on le connaît déjà, parce que il faisait partie déjà du premier voyage de François Hollande en tant que conseiller à l'Élysée. Bon, il a été ministre, donc il y a un peu de familiarité. Mais il faut dire aussi que dans, disons, la relation de confiance entre la France et l'Allemagne, il y a une une légère asymétrie, c'est plutôt à la France de montrer qu'elle va faire des efforts et donc rétablir la confiance, parce que Angela Merkel avait conscience, disons, du faible poids politique de François Hollande, pour pas dire plus, et donc du fait que le partenaire français avait du mal à répondre quand même, disons, à ce qu'attendaient les Allemands.
Stéphane Seydorf, il faut quand même noter la germanophilie de ce gouvernement. Au moins 3 ministres parlent la langue allemande, et pas des moindres, le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, et la toute nouvelle ministre des armées, selon la nouvelle définition. Témoin d'ailleurs l'échange lors d'une conférence de presse entre les ministres de la Défense, Sylvie Goulard, et son homologue Ursula von der Leyen, qui ont chacune parlé dans la langue de l'autre. Ça a marqué les esprits, Stéphane Seydorf.
À côté allemand, on n'a pas tellement de ministres qui parlent bien l'allemand. Il y a le chef
français,
de la chancellerie.
Le français, pardon.
On n'a pas tellement de ministres qui parlent le français, évidemment. Le chef de la chancellerie, Altmaier, Ursula von der Leyen, Wolfgang Schäuble, s'il a un texte, il arrive à le prononcer correctement, à peu près. Mais vraiment couramment, c'est uniquement Ursula von der Leyen, et elle joue un peu là-dessus, sur sa proximité avec la France et sur son europhilie qui dégage de cette proximité avec la France. Donc, on n'a pas tellement gardé en mémoire cette belle image des deux ministres des armées et de la défense qui parlent la langue de l'autre, mais on a vu qu'il y a une proximité entre les deux personnes qui était absolument incroyable.
Hélène Mire de la Croix, la première mesure, ou en tout cas une des premières mesures qu'a pris Emmanuel Macron à travers son gouvernement, ça a été le rétablissement des classes bilingues français-allemand. Alors, ça concerne très peu de monde, mais c'est hautement significatif, notamment du côté allemand.
Oui, alors il ne s'agit pas des classes bilingues, mais des classes bilangues, qui était un dispositif qui avait été mis en place il y a d'assez nombreuses années pour essayer d'aller contre la tendance à l'abandon de l'allemand au bénéfice de l'anglais, et en proposant aux élèves en classe de 6e, commençant une langue étrangère, de commencer tout de suite deux langues étrangères, donc l'anglais, évidemment, mais aussi une autre langue, et donc prioritairement l'allemand. Ce qui avait eu un effet tout à fait salvateur sur la pérennité d'un apprentissage de l'allemand, qui est quand même très très important pour la France, et comme on l'a su, parce que ça fait quand même pas mal de bruit, le président gouvernement et la ministre de l'éducation, Najat Vallaud-Belkacem, avaient considéré que c'était un dispositif élitiste et qui ne rendait pas l'accès à plusieurs langues étrangères à d'autres. Ça avait vraiment joué un rôle vraiment de sonnette d'alarme les 2-3 dernières années, et on s'est beaucoup ému, tous ceux qui travaillaient pour l'Europe et entre la France et l'Allemagne, de cette mesure qui était vraiment arbitraire et aux conséquences probablement très nocives. Donc, il est clair que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui s'intéressent aux pays voisins et considèrent que apprendre l'allemand, c'est quelque chose qui est un atout, non seulement un atout aussi pour la formation intellectuelle et cérébrale, je dirais, c'est comme le latin et les mathématiques, ça permet de penser, et puis parce que c'est important de ne pas seulement parler en anglais avec notre voisin.
Ça a été bien perçu, Stéphane Seydorf, du côté allemand, cette première décision d'Emmanuel Macron à travers son gouvernement.
Oui, très bien, très bien. Il y a beaucoup de soulagement là-dessus, mais on peut aussi poser la question que font les régions allemandes, puisque vous savez, l'éducation en Allemagne, c'est une prérogative des régions, c'est pas au niveau fédéral. Que font les régions en Allemagne pour soutenir justement l'enseignement du français? Et je suis moins sûr que ça va aussi loin que le dispositif qui a été rétabli en France. D'une manière plus générale.
Il y a l'exception de la Sarre tout de même, hein.
La Sarre qui va très loin, le Bade-Württemberg aussi, qui a au niveau de l'école primaire un dispositif qui permet au moins le langue du Rhin d'apprendre le français très tôt, mais il semblerait que ce dispositif est aussi menacé, et donc il faudra rester très très vigilant là-dessus. Je voulais ajouter un mot sur ce qu'on a pu voir quand la décision d'abandonner ces classes bilangues a été prise, ce qu'on a pu voir, puisque c'est tout à fait important et caractéristique de cette relation franco-allemande. Il y avait un lever de bouclier de toute la société civile franco-allemande des deux côtés, évidemment les professeurs d'allemand, mais aussi tous ceux comme nous qui travaillent dans des instituts de recherche, d'expertise, beaucoup d'associations, de jumelages, et on a vu qu'il y a une société civile qui agit un peu comme un groupe d'intérêt ou un lobby, et qui peut mettre une certaine pression sur les acteurs politiques. Et nous voyons ça actuellement, on pourra en parler en deuxième partie, à l'œuvre avec des attentes qui sont très grandes et qui ont une influence sur cette volonté politique des acteurs ensuite. Pourquoi Angela Merkel elle a évolué dans sa compréhension du franco-allemand, puisqu'elle voit que c'est une position tout à fait favorable à défendre devant son opinion publique en Allemagne.
Chaque début recèle une magie cachée. C'est Angela Merkel citant Hermann Hesse lorsqu'elle a rencontré Emmanuel Macron, mais la magie ne pourra durer que s'il y a des résultats, a-t-elle prévenu. Alors, qu'est-ce que les Allemands attendent des Français? Et je poserai bien sûr la question inverse, Marc-Olivier Padis.
Alors, ce que les Allemands attendent des Français, c'est ce qu'ils disent dans la langue de ni l'un ni l'autre des partenaires, c'est « do your homework », c'est « faites votre travail ». On attend que vous respectiez les critères de stabilité budgétaire que la France est engagée à suivre à Bruxelles. Et c'est vrai que Angela Merkel a ce privilège d'avoir vu passer un certain nombre de présidents français qui, dès qu'ils sont élus...
Elle a de la bouteille,
bon, mais elle a vu beaucoup de gens arriver à Berlin en disant, maintenant, ça va être formidable, on va tenir nos engagements, etc. Et puis, elle attend toujours non seulement l'amour, mais l'épreuve d'amour, comme disait Aragon. Donc, et là, on est quand même pas loin de l'objectif, parce qu'il faut reconnaître que François Hollande a mené une stratégie économique continue qui a rapproché la France de la cible, et en particulier sur le maintien du déficit en dessous de la barre de 3%. On est à 3,1, 3,2 peut-être. Et donc, d'ailleurs, la Commission européenne a dit l'année prochaine, la France sera à 3. Si elle relâche l'effort, elle va repasser à 3,5. Donc,
et
en
sur quoi
gros,
sera
on est quand même... Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on dit très peu en France. C'est que la France est le seul pays en Europe aujourd'hui à ne pas tenir ses engagements. Et c'est vrai que dans la culture allemande, on n'a pas besoin de faire du culturalisme très développé, mais c'est vrai que le fait de tenir sa parole, c'est quand même quelque chose d'important. En France, on a tendance à avoir toujours une lecture politique des choses en disant, bon, on s'arrange, c'est le rapport de force qui compte, etc. Pour les Allemands, mais aussi pour d'autres, les Néerlandais, les pays scandinaves, les engagements pris à Bruxelles sont des choses vraiment sérieuses et il faut s'y tenir. Alors là, le nouveau président a une chance incroyable, c'est qu'il arrive dans un moment où la conjoncture économique est bien meilleure et où il peut tenir cet engagement.
Stéphane Seydenhoff, est-ce que je peux résumer ce que vient de dire Marc-Olivier Padis par deux mots? Les Français sont plutôt séduisants, mais c'est difficile de leur faire confiance, c'est un peu ça?
Je dirais pour beaucoup d'Allemands, et je pense même au gouvernement, ça reste un partenaire énigmatique. Ce qu'on attend, je compléterai les propos de Marc-Olivier Padis, c'est que la France retrouve une compétitivité économique et qu'elle arrive à combattre son chômage pour dépasser la fracture sociale qu'on a vue. C'est un peu plus loin que juste dire il faut respecter les critères de Maastricht. Pour le gouvernement allemand, il a la conviction forte que pour retrouver la compétitivité, combattre le chômage et quitter la fracture sociale, il faudrait s'y tenir aux critères de Maastricht et ça va venir tout seul en gros. On peut avoir différents avis et c'est là où la France elle est énigmatique puisque côté allemand, ça semble évident que, on va pas dire cure d'austérité, mais un effort budgétaire dans le sens de respecter les critères de Maastricht, ça pourrait aboutir sur les points que je viens de nommer. On comprend pas bien que, vu de France, ça se présente différemment, qu'on a d'autres instruments, peut-être, pour retrouver cette compétitivité économique. Mais ce qu'on veut de côté allemand, c'est surtout un partenaire fiable, oui, qui respecte les engagements pris, somme toute, démocratiquement. C'est pas un rapport de force à Bruxelles, mais c'est aussi une manière démocratique à prendre ensemble des décisions, si vous pensez au Parlement européen. Et puis, un partenaire qui sera capable de toujours jouer avec l'Allemagne ensemble, ce leadership, le moteur franco-allemand, et qui a besoin, donc, d'une compétitivité économique et un peu moins de chômage qu'actuellement, beaucoup moins de chômage.
Alors justement, que pensent les Français et les Allemands de la relation franco-allemande? Est-elle importante? Oui, non, pourquoi? Félicia Schröder a attendu son micro de chaque côté du Rhin. D'abord en France, aux abords de la gare Montparnasse à Paris. Tendez l'oreille.
La France et l'Allemagne, c'est les deux pays dominants en Europe.
Parce que les Allemands sont bien meilleurs que nous à tous les niveaux.
La relation franco-allemande est juste une illusion. Parce que derrière tout ça, il y a le transfert de souveraineté. Voilà. Et pour l'instant, les pays existent encore un tout petit peu, mais dans quelques années, on ira vers une Europe fédérale. Et je pense que l'économie allemande sera tellement plus puissante que la nôtre qu'on n'aura plus notre mot à dire.
Nous, on n'a pas connu la guerre. Moi, c'est mes parents qui ont connu la guerre. Et je pense que la relation franco-allemande est importante pour la France et pour l'Europe.
Oui, c'est important parce que mon père travaille dans une usine et il a beaucoup de relations avec les Allemands, donc c'est important pour lui.
Je suis allé qu'une fois en Allemagne depuis 26 ans, donc, mais je pense que oui, c'est important de continuer à avoir des relations cordiales et même économiques avec l'Allemagne.
On a l'impression que la France a besoin de l'Allemagne et vice-versa pour avancer. Et puis même au niveau européen, on ne peut rien faire sans l'Allemagne.
Même question, toujours posée par Félicia Schröder, mais en Allemagne, aux abords de la gare de Düsseldorf, de l'importance de la relation germano-française vue de Düsseldorf.
Je pense que les deux pays se complètent plutôt pas mal, malgré leurs différences.
Premièrement, les relations économiques et aussi les relations politiques entre maman Merkel et le président français.
Maman Merkel et les jeweiligen Präsidenten.
Parce que la France était perçue comme un ennemi héréditaire pendant des décennies. Et enfin, après 1945, s'instaure la réconciliation.
Beaucoup d'Allemands vont en France et la France, c'est un beau pays. Et il y a la paix qui règne.
Tout d'abord, on est amis, ensuite voisins, puis on fait partie de l'Union européenne et on a les mêmes intérêts, économiquement, culturellement, et ce sont déjà des raisons suffisantes. Surtout maintenant où le fossé en Europe se creuse avec les partis populistes, je crois que l'élection en France a montré que c'est très important que la France et l'Allemagne collaborent de manière proche.
Un micro-trottoir n'est qu'un micro-trottoir, il n'a pas la valeur même d'un sondage, mais il est clair. Alors, Hélène Millard de la Croix, avez-vous entendu à travers ces passants français-allemands croisés par Félicia Schröder, rejet, attirance, méconnaissance?
Un peu tout ça. Je trouve que c'est un micro-trottoir qui est bien fait parce qu'il révèle qu'il y a à la fois des arguments humains très forts. Les gens parlent d'amitié, de proximité, qu'on va en Allemagne, qu'on va en France. On sent de la chaleur. Les éléments donc du vécu, c'est-à-dire je vais en France souvent, le tourisme, enfin cet élément-là, le jeune qui dit je suis allé une fois en Allemagne, ça m'a plu.
Mais une seule fois en 26 ans.
Une seule fois en 26 ans, mais bon, c'est déjà pas mal. Il y a eu des tas de générations, vous savez, avant Erasmus, où on n'allait jamais dans le pays du voisin et on a où seulement pour y faire la guerre. Les intérêts bien compris, c'est un des éléments qui apparaissent toujours. Et puis aussi un certain nombre de préjugés, ces représentations qu'on a toujours en France, une espèce d'hégémonie allemande, d'une Allemagne qui déciderait tout, et puis d'un Bruxelles où en fait on attirerait à Bruxelles l'ensemble des libertés des humains et dans les pays qui perdraient leur mot à dire. Bon, ça ne fait que confirmer une vision quand même de... On n'a pas tellement le choix. Soit c'est un choix que l'on fait parce qu'on s'aime et qu'on est proche, soit de toute façon les données de proximité géographique sont telles que autant s'y prendre.
La géographie est le dernier mot. Stefan Seydendorf, qu'avez-vous perçu, vous, entre ces points de vue français et allemand? Une différence ou pas? C'est vrai qu'on dit souvent que les Allemands connaissent mieux la France que les Français connaissent l'Allemagne.
Ils croient mieux connaître, en tout cas. Il y a une nuance. Il y a plus de touristes allemands en France, donc on a une idée superficielle, au moins, de ce que c'est la France, qui va peut-être un peu plus loin que dans l'autre sens. Actuellement, il y a énormément de Français. Moi, je vois énormément de Français en Allemagne aussi, à Berlin notamment, mais aussi dans le sud-ouest, en Allemagne de l'Est, c'est très attirant. Ce que j'ai entendu dans le micro-trottoir, c'est un peu ce qui sort aussi des sondages empirique que nous avons, où on voit que sondage après sondage, les deux pays se reconnaissent mutuellement comme les partenaires les plus importants, à cause de leurs liens historiques, à cause de leur amitié, à cause de leurs intérêts communs, mais qu'il reste un certain nombre de stéréotypes, on peut peut-être dire, relancer un peu dans le passé pas si lointain, côté français, pendant cette campagne présidentielle, cette idée du bouc émissaire de l'Allemagne, qui tous les maux de l'Europe seraient dus à l'Allemagne et son austérité. On fait même pas la différence entre l'Allemagne et son gouvernement, la chancelière, mais c'est l'Allemagne, comme dans le passé. Ça reste toujours. C'est aussi relancé régulièrement lors des campagnes présidentielles, dans les médias, effectivement. Mais, somme tout et pour tout, une grande proximité et une confiance qui reste évidemment en permanence à reconstruire et à retravailler.
On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Кання європейське.
Розуміємо туди Європа.
Раскруча Европы.
Ставродромы της Европис.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez avec nos invités, nous nous interrogeons. Allons-nous insister à l'émergence d'un printemps franco-allemand entre Angela Merkel et Emmanuel Macron? Il y a en tout cas des petits signes de complicité à chacune de leurs rencontres. Alors au-delà de la forme, il y a aussi la situation, l'état fébrile de l'Europe dont ils sont tous deux conscients et la nécessité de redonner aux citoyens confiance dans la construction européenne. Et puis il y a enfin un contexte géopolitique nouveau, la Russie de Vladimir Poutine toujours menaçante, à un moment où l'Amérique de Donald Trump se replie sur elle-même, sans oublier bien sûr les conséquences du Brexit. Entre Paris et Berlin, tous les clignotants sont au vert, alors que faudrait-il pour que les relations repartent d'un bon pas et quelle forme pourrait-elle prendre? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Hélène Mière-Delacroix, professeur d'histoire à l'Université Paris-Sorbonne, Marc-Olivier Padis, directeur des études à la Fondation Terra Nova, et Stefan Seidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Il est en ligne de Strasbourg, dans un studio de France Bleu, Alsace. Alors, Marc-Olivier Panis, relancer l'Europe, quelles sont les pistes? Est-ce qu'il faut d'abord renforcer la zone euro? Emmanuel Macron a parlé de la nécessité d'avoir un budget de la zone euro, d'une assemblée de la zone euro, d'un ministre des Finances de la zone euro. Est-ce que c'est une piste de travail importante qui pourrait changer en quelques années la perception que les Européens ont de l'Europe? Et est-ce que, du côté des Allemands, d'Angela Merkel, voire de Martin Schulz, car il va y avoir des élections aussi en septembre en Allemagne, on est à peu près sur la même ligne.
Oui, bah tout à fait. Alors effectivement, vous avez raison de dire que c'est quand même l'euro qui est au centre. Aujourd'hui, on parlera des questions de défense plus tard avec la géopolitique. Mais disons, pour les questions internes à l'Europe, c'est quand même l'euro et la gestion de la zone euro qui n'est pas toute l'Europe. Mais enfin, quand même, aujourd'hui, ce qu'on peut considérer comme le cœur de l'Europe qui est au cœur des discussions.
Et qui est de plus en plus importante avec le départ des Britanniques. La zone euro, ça va être à peu près 85% du PIB de l'Union européenne. Donc ça devient vraiment très très important.
Oui, ça devient vraiment le cœur du sujet. Alors, il y a des approches tout de même différentes entre la France et l'Allemagne sur ce sujet. La première différence, c'est qu'il y a un scepticisme du côté allemand sur l'idée de relancer un grand chantier qui contraindrait à une révision des traités. Même si Angela Merkel, dans la conférence de presse lors de la première visite d'Emmanuel Macron, n'a pas fermé la porte à l'idée d'un changement des traités pour pas être désagréable, mais dans l'ensemble, son équipe n'y croit pas du tout. Il y a des bonnes raisons de penser que ce serait très difficile de changer les traités. Donc, on est dans un contexte un peu contraint dans lequel il faut faire évoluer les choses sans changer les traités en droit constant. Mais on peut dire qu'il y a quand même suffisamment de souplesse ou d'institutions ouvertes en Europe. Alors, les pistes, c'est effectivement, vous l'avez dit, un budget de la zone euro, c'est-à-dire pour donner de la capacité budgétaire à la zone euro. Mais une capacité budgétaire, ça veut dire en fait la possibilité d'investir. Il faudrait que l'Europe puisse investir directement là où les États endettés, notamment les États du Sud et aussi la France, ne peuvent plus mener les investissements. Il faudrait que ce soit l'Europe qui prenne le relais.
Et un budget de zone euro, ça veut dire un budget partiellement financé par l'Allemagne. Ça veut dire ça, quand on a tué le décodeur.
Voilà, le décodeur, c'est que quand on dit budget commun en France, en Allemagne, on entend union de transfert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que les pays les plus riches vont payer pour les autres, et donc en particulier l'Allemagne. C'est pour ça que Bild Zeitung avait titré, quand Emmanuel Macron est arrivé à Berlin, « Wie teuer wird Frankreich für uns ?» Combien ça va nous coûter, tout ça. C'est notre cher ami, avec le double sens sur cher. Donc il y a cette crainte, effectivement, d'une union de transfert. Et puis, il y a le problème institutionnel, c'est-à-dire qui gère cette zone euro. En France, on plaide pour un Parlement de la zone euro, avec un ministre de la zone euro, et le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, lui est quand même réticent à l'idée, parce que en Allemagne, enfin, nos deux interlocuteurs pourront compléter, mais il y a quand même l'idée que, non, la légitimité du vote du budget, c'est le Parlement allemand, c'est les parlements nationaux, et donc, comment est-ce qu'un Parlement européen pourrait décider de dépenses dont il n'est pas responsable démocratiquement devant les électeurs. C'est une question démocratique sérieuse, effectivement. En France, on se dit, nous, on passe un peu vite sur ces aspects qui nous semblent procéduraux. On dit, il n'y a qu'à dépenser. Et puis, après tout, qui dépense, qui décide des dépenses, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'injecter de l'argent dans l'économie, de l'argent public, c'est très bien. Bon. Donc, on a un débat en France un peu sommaire sur ce type de sujet. Toujours est-il, voilà, il y a ces questions, un budget commun, des investissements dans, il y a quand même des sujets, hein, l'énergie, la transition numérique sur lesquels on peut investir, coordination des politiques économiques, et puis il y a un sujet qui est sans doute plus facile, sur lequel on pourrait avancer assez vite, il y a un conseil des ministres franco-allemand en juillet sur la convergence fiscale, notamment l'impôt sur les sociétés, pour pas qu'il y ait de dumping de politiques non coopératives entre les États qui fixent des taux d'imposition trop bas pour les sociétés, comme fait l'Irlande pour attirer les investisseurs.
C'est devenu insupportable pour les citoyens européens, à l'exception des Irlandais, évidemment, et peut-être des Luxembourgeois et voilà, des Irlandais. Peut-être.
Exactement. Et puis Malte. Enfin bon, oui. Mais c'est vrai que bon, ça pose quand même un problème. Il faut que la compétition soit équitable au sein de l'Europe. Sinon, à quoi bon tout ce travail ?
Avant de poser un peu la même question à Stéphane Seydener, je voudrais qu'on entende Hélène Miller de la Croix sur, évidemment, la France, c'est pas l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est pas la France. C'est par exemple, comme ce qu'a évoqué Marc-Olivier Padis, on est plus respectueux, il y a des règles, on en tient compte, on les respecte. Et évidemment, il y a le rôle important de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui évidemment se posera des questions, s'interrogerait sur ce budget de la zone euro, qui ne serait pas contrôlé directement par l'actuel Bundestag.
Oui, en effet, c'est une question absolument importante et centrale et qu'il faut arriver à comprendre en France et avec laquelle il faut parler avec les Allemands aussi sur cette question. C'est que si on a un peu de recul historique, on a l'impression que l'Allemagne fédérale dans son ancien système et puis après réunifiée, donc toujours Allemagne fédérale, avait beaucoup moins de difficultés que les autres pays à transférer des parts de sa souveraineté à un niveau supérieur, puisque le pays est lui-même constitué. La vraie vie se passe dans les qui transfère au niveau fédéral des choses, puis donc plus facilement en abandonner. En même temps, on a vu ces dernières, déjà presque décennies, une évolution un peu inquiétante vue de l'extérieur en Allemagne, qui est une tendance à ce que la Cour fédérale constitutionnelle freine le mouvement vers la mise en place de structures et de transferts de souveraineté à l'Europe, avec l'argument massu qui est de dire « il n'y a pas de peuple européen ». Voilà. Donc, s'il n'y a pas de peuple européen, comme nous sommes dans un système de démocratie parlementaire représentative, le seul représentant du peuple, c'est, en l'occurrence en Allemagne, le Bundestag et le Bundesrat. Donc, rien ne peut être décidé contre le Bundestag. Et ça a été vraiment un relatif virage, considéré comme un recul, enfin un frein, vers ce qui était cette tradition allemande de favoriser l'émergence de structures européennes. Donc là, je pense qu'en effet, c'est une vraie question qu'il va falloir poser. Quand Wolfgang Schäuble se retranche aussi derrière cette argumentation, c'est un peu, bien évidemment, pour dire non, l'Allemagne ne paiera pas, et aller dans le sens des électeurs qui ont l'impression qu'ils ne doivent pas payer pour l'insouciance des États du Sud. On connaît cette représentation. Sauf que, entre-temps, je pense que beaucoup d'Allemands ont compris qu'on ne pouvait pas être tout seul à avoir raison dans son coin et à laisser couler tous les bateaux autour de soi et rester sur son île. Donc je pense que là, il y a quelque chose sur lequel on va devoir bouger.
Alors Stéphane Seydener, les Allemands ont compris, comme vient de le dire Hélène Miller de la Croix, qu'on peut pas, même si on est très riche, très fort, très beau, être tout seul sur son île au milieu de l'Europe.
Ça va très vite, en tout cas. Le processus de compréhension, on évolue à une vitesse presque supersonique depuis que Emmanuel Macron il est arrivé au pouvoir. Ça montre un peu que ces arguments très fondamentaux que mes deux collègues viennent d'évoquer, ils comptent, mais ils comptent quand même politiquement. Hein. On peut très bien être pragmatique et dire, oui, d'accord, il y a les prérogatives concernant le budget, dans toute démocratie qui respecte, c'est le Parlement qui a cette prérogative de lever l'impôt, mais après il y a aussi une manière pragmatique de travailler entre Européens. L'Union Européenne, elle a des ressources propres depuis le début. Ressources propres, c'est l'argent de l'Union Européenne qui a été voté une fois dans chaque Parlement démocratiquement, que désormais ça revient à l'Union Européenne. On peut revoir tous les 5 ans, tous les 10 ans, mais autrement ça vient directement à l'Union Européenne. Donc quelque chose de ce genre existe déjà. Il suffirait de regarder de près comment ça a été fait, d'augmenter le taux de ressources propres dans le budget de l'Union européenne, et le Parlement européen, il fait déjà un travail budgétaire. Il ne peut pas décider de lever l'impôt, mais il décide comment sont utilisées les ressources, sur quel programme et sur quel fonds on va financer quelle politique. Donc tout ça, ça existe déjà, on peut très bien évoluer, et je pense que en Allemagne, ce qu'on voit actuellement, c'est que beaucoup de ces arguments avancés dans le passé, c'était quand même aussi des arguments avancés pour des raisons tactiques, hein, pour justement pas trop payer, notamment pour la Grèce, et qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique qui évolue et qui, du coup, on trouve aussi des arguments qui permettent d'aller plus loin. J'ajouterai juste un petit mot pour la tendance française à revenir sur ce fameux « l'Allemagne payera ». L'Union européenne, c'est aussi la France qui paye, hein. Il faut pas, puisqu'on a un peu parfois ce complexe d'infériorité contre l'Allemagne dominante, croire que c'est l'Allemagne qui paye tout. Si on prend l'exemple de la Grèce, la France est le deuxième pays qui paye pour la Grèce, énormément, et en même temps, si on prend les sommes par tête de la population, la France paye plus que l'Allemagne. Et dans tout ça, évidemment, ça reste pour l'instant de l'argent qu'on sent pas directement en tant que citoyen, puisque c'est des garanties pour des crédits qui n'ont pas encore été déboursés. Mais la France aussi, elle est engagée à côté de l'Allemagne, avec parfois même plus d'argent que
l'Allemagne. Un niveau d'engagement
équivalent. Si par tête. Hein.
LFI à Berlin, 96.7 FM.
Carrefour de l'Europe, allons-nous assister à un printemps franco-allemand avec notamment l'élection d'Emmanuel Macron? Nous sommes avec Hélène Mière de la Croix, professeure d'histoire à l'Université Paris-Sorbonne, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études à la Fondation Terra Nova, et avec Stefan Seidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Il y a un événement qui a troublé récemment la chancelière allemande, c'est sa rencontre avec Donald Trump à l'occasion du sommet de l'OTAN et de la réunion du G7. Elle en est revenue abasourdie par l'attitude et le discours du président américain, et forte d'une conviction qu'elle a exprimée quelques jours plus tard devant des militants de son parti, Angela Merkel.
L'époque où nous pouvions entièrement compter les uns sur les autres est quasiment révolue. C'est mon expérience de ces derniers jours. Nous, Européens, devons prendre notre destin en main. Nous devons nous battre pour notre propre destin.
Alors que Marc-Olivier Bédis, est-ce que Donald Trump, et puis on pourra rajouter aussi Vladimir Poutine et les partisans du Brexit, sont-ils les meilleurs alliés de ce printemps franco-allemand dont on s'interroge s'il va éclore ou pas?
Je crois qu'on peut dire que dans l'Allemagne qui s'est reconstruite après-guerre et qui a très très bien réussi du point de vue économique et démocratique, il y avait un certain nombre de fondamentaux, de repères très importants, la volonté de construire l'Europe, une monnaie forte, le Deutsche Mark, bon, qui a été abandonnée, la relation franco-allemande et le soutien américain. Et l'idée que le soutien américain puisse ne plus être aussi fort qu'auparavant, c'est quand même un des piliers de l'identité de l'Allemagne d'après-guerre qui se trouve remise en question. Alors, les autorités américaines ont quand même essayé de corriger le tir en disant « attention, on n'abandonne pas l'Europe, on parle de rééquilibrage ». Et on ne sait pas encore exactement ce que veut dire cette phrase d'Angela Merkel que vous avez diffusée à juste titre. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire répondre à la demande américaine, qui est une demande ancienne que Trump a présenté avec un côté plus brutal et peu diplomatique, mais qui est la demande que les pays européens payent leur part de contribution des dépenses militaires au sein de l'OTAN.
Le fameux partage du fardeau.
Le partage du fardeau, 2% de dépenses militaires par pays.
Il faut rappeler que l'Allemagne, on est très très loin, on est à 1,3,
dans mon c'est souvenir, ça. Mais ouais. L'Allemagne a augmenté récemment, mais comme elle part d'assez bas, il y a de la marge de progression, mais même la France n'est pas à 2. Il y avait à 2 la Grèce, par exemple, qui avait des dépenses militaires, comme on sait, extravagantes.
La Pologne et l'Estonie, je crois.
Oui, alors qui ont des raisons quand même historiques de se méfier d'un gros voisin à l'Est, dont on reparlera aussi peut-être. Bon, mais donc, est-ce que ça veut dire simplement dépenser plus dans le cadre de l'OTAN? Ou est-ce que ça veut dire mener cette réflexion aussi d'une défense européenne qui serait indépendante de l'OTAN? En réalité, les pays européens mènent toujours un peu les deux de front. Et c'est très difficile de choisir. Et moi, je ne sais pas aujourd'hui exactement ce que Angela Merkel implique quand elle fait cette déclaration.
Non, on va poser la question à Stéphane Sedendorf, qui comprend l'allemand dans le texte. Alors, l'exégèse, comment interpréter les propos d'Angela Merkel, Stéphane Sedendorf, il faut renforcer l'OTAN, il faut prendre son autonomie.
Je pense d'abord nous avons assisté à un moment très rare. Angela Merkel, on a compris au bout de 12 ans, ce n'est pas une femme politique qui laisse apparaître ses émotions facilement. On a vu un moment un peu pareil lors de la crise des réfugiés où vraiment on a touché le fond de sa pensée, elle s'est exprimée très très directement et aussi avec de l'émotion. Après ce sommet, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé derrière les coulisses, mais il me semble que nous assistons à nouveau à un tel moment. Elle a été très claire et très peu diplomatique, somme toute, de dire que voilà, nous ne pouvons plus compter sans faille sur la fiabilité du lien, notamment avec les États-Unis. Et elle parle pas de nous Allemands qui devons prendre en main notre destin, mais nous Européens. Ça aussi, ça a frappé beaucoup de gens en Allemagne et puis même jusqu'au site du Monde, du journal, où on se demandait si c'était une erreur de traduction ou si elle a vraiment dit nous Européens. Je pense que ça concerne plusieurs politiques, pas uniquement la défense, mais notamment aussi cette question de la sécurité de l'Europe. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si nous regardons l'histoire de la relation franco-allemande d'après-guerre, nous assistons plusieurs fois à de tels moments géopolitiques qui ressemblent un peu, toute comparaison est toujours difficile, mais qui ressemblent à la constellation actuelle. Je pense notamment au fameux couple Adenauer-De Gaulle. Au début, Adenauer, le vieux chancelier, il était très soucieux comment il allait pouvoir faire l'Europe avec ce nationaliste pour lui, De Gaulle, ce général, ce soldat qui avait combattu l'Allemagne, qui a été blessé par l'Allemagne, comment il allait faire l'Europe. Et en fait, ils sont très vite mis d'accord puisque Adenauer avait un doute sur la fiabilité du jeune président Kennedy. Est-ce qu'il était prêt à défendre Berlin coûte que coûte ou est-ce que il pensait peut-être à s'arranger avec les Russes sur le dos de l'Allemagne? Donc, il se rapprochait de Gaulle et on a vu ce qu'on a vu. Et on peut dire la même chose sur Chirac et Schröder. On se souvient, au début, leur relation était exécrable. Et puis arrive le président Bush aux États-Unis et sa guerre du Golfe en 2003 et on assiste à une entente miraculeuse entre ces deux hommes qui célèbrent l'amitié franco-allemande. On pourrait être devant un phénomène similaire avec une situation géopolitique qui pousse les acteurs français et allemands à s'entendre et à aller de l'avant main dans la main.
Alors Hélène Mière de la Croix, est-ce qu'on assiste et on est en présence d'une fenêtre de tir historique pour la relation franco-allemande et pour l'Europe bien évidemment derrière?
Oui, je crois que Stéphane Sedendorf a tout à fait raison de souligner ces précédents historiques, mais il nomme là en fait une structure qui est assez classique dans la relation franco-allemande, qui est qu'il y a des tiers accélérateurs. Et que l'attitude, en particulier des Américains, a plusieurs fois joué un rôle important. Donc il a évoqué des phases importantes. C'était pas toujours d'ailleurs uniquement dans le domaine qu'il évoque. Dans le domaine de l'économie, il y a eu très souvent, de la part des Allemands, une exaspération assez similaire à ce qu'on a pu entendre de la part d'Angela Merkel. Simplement, elle n'était pas faite en public. En particulier, Helmut Schmidt avait été particulièrement exaspéré par la façon dont le président américain, alors d'abord Carter et puis après Reagan, avait demandé dans les années milieu des années 70, 77, 78 à l'Allemagne de devenir la locomotive de l'ensemble du monde et donc de changer sa politique économique. De la même façon, ce qui avait rapproché Giscard et Schmitt lorsqu'ils étaient encore ministres des Affaires des Finances, c'était la décision unilatérale de Nixon en 71 de cesser la convertibilité du dollar en or qui a mis le bazar, si on peut dire les choses comme ça, dans le système monétaire mondial et donc européen. Donc ce phénomène, il est en effet ancien. Et c'est d'ailleurs une façon de montrer que la construction d'un rapport efficace franco-allemand et qui a des fruits n'est pas le résultat d'une attirance naturelle, mais est en général une réaction bien pragmatique à une situation de contrainte extérieure et sans le vouloir d'une certaine façon. Alors on ne sait pas s'ils l'ont voulu ou pas, mais là le président Trump, de même que la décision des Britanniques de sortir de l'Europe, ont un phénomène accélérateur qui contraint les Français et les Allemands à prendre les choses en main, comme l'a dit Angela Merkel. Elle a dit dans nos propres mains, avec une solution au moins commune et si possible européenne.
Alors justement, qu'en pensent les Européens? Et pour le savoir, nous allons faire un détour, comme chaque semaine, par la rédaction du Courrier International. Bonjour Corentin Pienaar-Gaillard.
Bonjour Daniel.
L'élection d'Emmanuel Macron et ses premiers pas avec la chancelière allemande ont été scrutés et commentés partout en Europe, avec d'abord, et c'est une tendance dominante, une approche plutôt positive.
Et oui, dans la presse européenne, un peu partout depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on salue la renaissance du couple franco-allemand, surtout au sud de l'Europe. En Espagne notamment, la Vanguardia parle même de la fin d'un complexe d'infériorité des Français par rapport à l'Allemagne, ce qui devrait se traduire, d'après le journal espagnol, par des relations d'égal à égal entre les deux pays, une remise à plat des pouvoirs en Europe, une réduction des politiques d'austérité prônées par Berlin, et même une relance de la croissance de la France, de l'Espagne et de l'Italie.
Alors, il y a ceux au sud de l'Europe qui sont plutôt satisfaits de cette relance, de ces retrouvailles franco-allemandes, et puis quelques-uns au nord de l'Europe et à l'est de l'Europe sont plutôt inquiets.
Et oui, parce que si un axe franco-allemand fort et équilibré semble pour l'instant rassurer les États europhiles, eh bien il inquiète aussi ceux davantage en marge de l'UE. Alors au premier rang de ces inquiets, on trouve la Pologne, comme le raconte Politico. Le gouvernement polonais craint d'être mis sur la touche dans une Europe menée par la France et l'Allemagne et recentrée sur la zone euro dont la Pologne ne fait pas partie. Alors le site d'information basé à Bruxelles rapporte que l'ambition franco-allemande de contrôler davantage les travailleurs détachés, et notamment ceux qui viennent de l'Est de l'Europe, est aussi un sujet de préoccupation majeur en ce moment à Varsovie. Le journal de gauche polonais Krytyka Polityczna prédit d'ailleurs qu'avec le gouvernement très conservateur actuellement à la tête du pays, eh bien la Pologne va rapidement se trouver marginalisée au sein de l'Union européenne. Et évidemment, difficile de ne pas évoquer la presse du Royaume-Uni qui, comme le rappelle le Financial Times, a tout à perdre dans les négociations du Brexit menées par une forte union franco-allemande. Le quotidien économique de Londres souligne que désormais les deux pays sont déterminés à ce que le Royaume-Uni paye le prix fort pour sa sortie de l'UE, et que les deux pays ont pour but d'attirer les banques britanniques sur le continent européen. Le Financial Times pense que le duo Merkel-Macron va d'ailleurs rendre l'Union européenne bien plus cohérente au niveau politique, et que ça se fera surtout sur le dos d'un départ musclé de la Grande-Bretagne.
Alors Marc-Olivier Badis, les Polonais, les Hongrois et les Britanniques sont un peu inquiets, mais ils sont évidemment dans une position difficile et très minoritaire les uns les autres, c'est pas forcément la même. Il y a toujours ce couple franco-allemand, quand il est un peu faible, on dit il y a quelque chose qui ne va pas, l'Europe est en panne. Et puis dès qu'il se renforce un peu, il y a les inquiétudes.
Oui, c'est un peu le paradoxe. C'est ce qu'on dit, ce qu'on entend à Bruxelles avec les autres partenaires européens. C'est enfin, il va y avoir des propositions franco-allemandes pour une relance de l'Europe. Et donc il y a toujours une attente du duo franco-allemand. Et puis une crainte aussi des petits pays comme les Pays-Bas, même la Belgique, qui sont quand même des pays, ou même l'Italie, bon, d'être tenus en dehors du deal, en dehors des discussions, d'être mis devant le fait accompli. Et donc c'est vraiment très ambivalent finalement cette attitude des autres pays qui veulent quand même que l'impulsion vienne des deux pays centraux, quoi qu'on en pense, et qui craignent en même temps ça.
Stéphane Seydendorf, vous aussi, vous percevez un petit peu ce paradoxe, cette contradiction?
Très bien, et on peut très bien aussi se l'expliquer. Après tout, c'est pas une chose facile d'accepter l'hégémonie des deux pays, si on pense même à un ensemble comme l'Europe. La solution franco-allemande, elle est acceptable pour les autres si elle est dans l'intérêt de l'Europe. Si c'est pas une solution dans l'intérêt de la France ou de l'Allemagne ou du franco-allemand, mais vraiment, les deux prennent leurs responsabilités, ils proposent une solution européenne. Et elle est encore plus acceptable, cette solution, si elle n'est pas garantie par la France ou l'Allemagne ou la volonté des deux gouvernements d'appliquer cette solution, mais si elle est garantie par un acteur neutre, par un acteur européen qui oblige tous les États à être égaux devant la loi, la Cour de justice, la Commission européenne. Et c'est ça qui...
Et alors, c'est qui cet acteur un peu arbitre, selon vous?
Ça peut être la Commission européenne et la Cour de justice européenne. Évidemment, toujours avec cette idée que tous les pays sont égaux devant la Cour de justice, et même les prétendus grands pays, il n'y a pas de grands pays en Europe, il y en a qui sont plus grands que les autres, ils sont égaux devant la loi européenne, et qu'il y a cette Commission européenne qui, normalement, depuis le début, est censé incarner l'intérêt européen. Donc les solutions franco-allemandes, ils ont une chance d'être acceptés par les autres s'ils sont faits dans un esprit européen, s'ils apportent une solution pour un clivage européen qui existe, qui réunit les pays d'un côté ou de l'autre, et si ensuite c'est une solution européenne dans l'intérêt de l'Europe qui apporte quelque chose à tous les pays et pas une solution uniquement dans l'intérêt de la France ou de l'Allemagne ou du franco-allemand.
Hélène Mierdeur, vous allez avoir le mot de la fin en tant qu'historienne. Au regard de l'histoire, cette embellie franco-allemande,
Elle est bienvenue Ça, c'est pas au regard de l'histoire, mais si, parce qu'on avait un peu, ces dernières années, presque depuis la réunification, une espèce de discours dominant en disant, finalement, la construction européenne sur la base franco-allemande, c'était une histoire qui tenait à l'ancien monde, et depuis la fin de la division de l'Europe, depuis la renaissance d'une, entre guillemets, grande Allemagne, tout ça, c'est du passé. Or là, je pense que on peut un peu le modéliser, hein, je pense qu'on sait un petit peu ce qui est ressorti, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est en effet qu'il y a un certain nombre de conditions favorables, d'éléments de contrainte, et puis d'une approche pragmatique des solutions possibles de la part d'acteurs politiques, donc là en l'occurrence la France et l'Allemagne, qui analysent la situation. Alors il y a des choses nouvelles, bien évidemment, l'histoire ne se répète jamais, il n'est pas étonnant que parmi les voix critiques face au couple franco-allemand, on ait entendu les Anglais, les Polonais, les Hongrois, qui ont, soit dans le cas anglais, ont toujours voulu être un pied dedans, un pied dehors, être dans l'Europe et en même temps freiner les progrès vers vraiment une Union européenne qui serait un acteur politique, ou alors, dans le cas de la Hongrie et de la Pologne, de ceux qui sont arrivés un peu plus tard par l'élargissement de 2004 et qui, ces derniers temps, freinaient aussi le plus possible et remettaient même en question un certain nombre de valeurs fondamentales de l'Europe. Donc, que cela se soit chiffonné par le fait que cette espèce de coup de rein que donneraient les Français et les Allemands avec les Italiens, les Espagnols, etc., et finalement un certain nombre d'Européens de l'Ouest, ce serait le signe que l'on a reconnu que rien n'était gagné,
mais que tous les espoirs sont permis.
Que tous les espoirs sont permis si on reprend un peu la même idée du tout début, hein, qui est de Robert Schuman et de Monnet, et de dire que si on met les choses ensemble, on gagnera plus que l'addition des forces que l'on aura mises et qu'il y aura un gain supplémentaire.
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Mathieu Salabert. Des infos sur nos invités sur la page Carrefour de l'Europe RFI. Vous pouvez réécouter cette émission sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone via RFI.fr ou les applis mobiles de RFI, elles sont gratuites. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Escaille, où que vous soyez, à Berlin, où vous nous écoutez sur 106 FM, à Paris sur 89 FM ou ailleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.